Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
De par notre emploi, on lit nos journaux. Moi, j'essaie d'en lire le plus possible. À tous les matins, on se lève. Ça, c'est un legs de Dominique Moret, ça, qui m'a appris dans la vie que si tu veux parler de sujets, faut que tu connaisses des sujets. Faut que tu lises beaucoup, faut que tu fasses ta revue de presse. Puis évidemment, il y a des publications qu'on aime mieux que d'autres. Il y a des publications qui sont plus proches de nous, des fois. Puis moi, je les lis tous. Et t'es pas mal capable de dire, la presse, plus fédéraliste, québécois, évidemment. Le boss a été chef du PQ. Puis il y en a un qui m'a souvent intrigué, c'était Le Devoir.
Oui.
Puis Le Devoir, des fois, j'haïssais pas ça parce que, tu sais, d'un bord, tu sais, de l'autre, tu sais, j'avais l'impression qu'on essayait d'avoir une espèce sans dire neutralité, mais de laisser du chemin à tout le monde.
Oui, c'est ça, de présenter plusieurs facettes d'une nouvelle.
J'ai l'impression que Le Devoir est en train de faire son nid, puis je sais pas que je veux parler que de ça, mais c'est que... Quand j'ai appris que Christian Rioux, que j'aime bien lire puis que j'aimais bien, s'était fait tasser. Là, dans Le Devoir, il reste Jean-François Lisée une fois de temps en temps. D'ailleurs, on a parlé de son dernier texte. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps. Peut-être que notre invité pourra lui faire une prédiction ou pas. Parce que je ne veux pas juste parler de ça. C'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'élaborer sur plein de sujets. Puis ça fait longtemps que je demandais à Max, j'aimerais ça y parler. Puis là, ça donne. Donc, je vais arrêter de parler seul et je vais ouvrir le micro parce qu'il est là. Christian Rioux, que je présente comment maintenant? Journaliste indépendant, chroniqueur?
Puis aujourd'hui, je suis chroniqueur au Journal de Montréal.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Correspondant à Paris.
C'est vrai. Récupéré par le Journal de Montréal.
Voilà.
Le départ du Devoir, je ne sais pas si vous voulez revenir, puis je ne sais pas si on s'est entendu qu'on parlerait de ça ou pas, mais est-ce que ça laisse une cicatrice, ça?
Écoutez, moi, j'ai travaillé 30 ans au Devoir. C'était le journal de mon grand-père, de ma mère, de ma famille. Évidemment, ça laisse des traces. Mais bon, moi, vous savez, c'est une page que j'ai tournée. Je veux pas faire l'autopsie de ce genre de choses-là. Sinon, peut-être pour conclure que on vit dans une drôle d'époque, c'est-à-dire une époque un peu polarisante, polarisée, où on a de plus en plus de misère à vivre avec des gens qui pensent pas comme nous.
Oui.
Et je pense que c'est un peu ça que j'ai vécu. Je me souviens d'époques où on pouvait avoir des divergences politiques, on pouvait même, je vous dirais, s'ostiner, s'engueuler, puis aller prendre une bière après et redevenir copain. Je dirais que dans le milieu du journalisme, en tout cas dans le milieu politique, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire ça. C'est la leçon que j'en tire un peu et je pense qu'il faudrait peut-être réapprendre à avoir des divergences politiques. Il ne s'agit pas de les cacher, mais à rester. On reste des Québécois. On reste des citoyens, on peut rester des amis aussi. Là.
Oui, puis moi, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Quand je tombe sur quelqu'un qui me dit, moi, je sais pas, je donne un exemple grossier, mais je suis communiste, moi, je tire une chaise, je me commande une bière, puis je veux jaser avec. Je veux comprendre pourquoi, je veux qu'il m'explique pourquoi. Et ça, c'est complètement ou presque, c'est presque disparu parce que, tu sais, je commence avec Le Devoir parce que c'est l'exemple qui vous relie au reste. Ce que je vois dans les dernières semaines, la cancellation d'un documentaire sur la transidentité, des gens qui veulent boycotter une librairie parce qu'ils sont pas d'accord que le patron... Tu sais, on déborde du média, on tombe dans, évidemment, les médias sociaux probablement qui jouent un rôle dans tout ça, mais il y a des questions à se poser sur notre capacité à écouter l'autre et à être capable de débattre et de comprendre ce que l'autre au moins essaie de dire, même si on n'est pas d'accord.
Écoutez, on le voit dans le vocabulaire, hein, tout de suite, dès qu'on a un désaccord avec quelqu'un, on le traite d'extrême droite, on le traite de fasciste, de radical, de tout ça. Tous ces mots-là, écoutez, on n'est pas dans les années 30, là. Qui va nous faire à croire qu'on vit dans les années 30 puis que la peste brune s'en vient? Là, on n'est pas, surtout au Québec, on n'est pas dans cette situation-là. C'est des mots qui servent, dans le fond, à pas discuter. C'est des mots qui servent à faire. Je trouve qu'il y a une sorte de, à la limite, c'est des mots paresseux. C'est des mots d'une paresse intellectuelle absolument incroyable. On veut plus discuter avec ces gens-là et donc on leur attribue des qualificatifs pour les rejeter. jeter là, dans un lieu. En fait, on n'a pas à discuter avec l'extrême droite, on n'a pas à discuter avec les fascistes. Écoutez, on discute avec tout le monde.
Mais
les qualificatifs, là, ça sert juste à empêcher ce débat-là.
Est-ce que les. Je l'ai abordé, mais est-ce que les médias sociaux ont quelque chose à jouer dans tout ça? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un espèce de catalyseur où on s'encourage dans nos propres silos là, à se convaincre qu'on a la vérité absolue. Est-ce que. Puis je sais pas, j'ai pas de solution, il n'y a rien à faire avec ça. Chacun se campe où il veut. Parce que, tu sais, j'ai des gens qui commandent des trucs qu'ils n'ont pas lus, qui commandent des vidéos qu'ils n'ont pas vues, qui commandent des conférences avec des mots, comme vous dites, très, très faciles et lâches, fascistes. Dictateurs, etc. Est-ce qu'on a déjà eu cette... Moi, on dirait que les médias sociaux m'ont ouvert un monde qu'on connaissait pas. T'sais, on dirait que... Non, mais c'est que là, on a des petites lumières sur tout le monde. T'sais, là, on vous voit tous. Ouais. Avant, on avait peut-être l'impression que c'était plus uni. Peut-être que ça ne l'était pas. Mais là, on a vraiment ce clash-là public où les gens peuvent s'envoyer promener sans argumenter. Puis je lance ça, là. Écoute, on est rapidement tombé dans la philosophie à deux ans, mais il me semble qu'il y a un lien à faire entre les deux.
Oui, je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle. Hein. C'est, à l'époque, on disait peut-être les mêmes choses, mais on disait ça au bar à côté de chez nous, au restaurant, chez Dunkin' Donuts. Et puis, mais aujourd'hui, c'est diffusé largement et tout le monde nous entend. Et donc, tout le monde, je dirais, peut se permettre d'avoir une opinion, même si avoir une opinion, des fois, c'est difficile. Il faut lire beaucoup, vous le disiez d'ailleurs au début. Je pense que les médias sociaux jouent un rôle, même si les médias sociaux jouent un autre rôle aussi, c'est-à-dire qu'ils permettent à des gens qui ne pourraient pas s'exprimer de s'exprimer, puis de faire connaître leur point de vue. Puis ça, c'est un aspect positif. Mais je pense que pas juste ça. On vit dans des sociétés qui sont, au-delà des réseaux sociaux, on vit dans des sociétés qui sont, je pense, plus polarisées. On achève, je dirais, une période, une ère qui a été une ère de croissance, qui a été l'époque de la mondialisation heureuse où on nous annonçait l'ouverture des frontières et tout ça. Et on entre aujourd'hui dans une époque où on comprend que ça n'a pas été... c'était pas aussi merveilleux qu'on nous l'avait annoncé. C'était pas aussi extraordinaire. Il y a des gens qui en souffrent. L'industrie a périclité dans beaucoup de pays. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a pratiquement une sorte de révolte populiste aussi, et ça passe par les médias sociaux, mais une sorte de révolte populiste de la population qui a le goût de changer d'élite, qui considère que ces gens-là, quelque part, ont failli. Et donc, ça polarise énormément le débat, mais évidemment, on a des élites aussi qui résistent à ça, qui ne veulent pas, nécessairement laisser leur place. Donc, tout ça additionné, ça donne le résultat. Ça donne une situation extrême et une situation où le débat devient de plus en plus difficile.
Excusez si des fois j'ai l'air d'embarquer par-dessus, c'est parce que des fois ça coupe un peu puis j'ai l'impression qu'il y a un silence, mais c'est très... Je veux dire, je suis 100% branché sur vous. J'ajouterais peut-être à ça l'homogénéité sociale qui est très différente. Moi, je viens du début des années 80, donc l'ère très PQ, très nationaliste, très « nous sommes Québécois », puis on s'obstinait sur Canadien-Nordique, puis on s'obstinait sur fédéraliste-souverainiste. Là, maintenant, les intersectionnalités de la gauche, puis tous les débats. T'sais, maintenant, j'ai même l'impression de juste dire je suis séparatiste. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Moi, récemment, Mark Carney m'a fait virer séparatiste. Et là, je me fais dire par des séparatistes, non, pas toi. Toi, non, on le veut pas dans notre gang. Donc, tu peux être séparatiste, mais colle-toi pas sur nous parce que t'es Radio X, la droite toxique, le ci, le ça. Il y a l'homogénéité aussi sociale via tout ce qu'on a vécu. D'ailleurs, je vais vous faire écouter un extrait de vous qui animiez la conférence de Nora Busigny. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, puis je veux qu'on jase de ça. Donc, je vous écoute. On s'écoute. Et on parle après.
Ça fait, vous l'avez dit, 30 ans que je suis à Paris à essayer d'annoncer aux Québécois ce qui s'en vient chez eux. Je le dis un peu brutalement. C'est pas vrai pour tous les sujets, mais c'est vrai pour un grand nombre de sujets.
Qu'est-ce qui s'en vient chez nous?
Bah, écoutez, vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis à Paris, ça fait 30 ans que je suis en France. Au début, quand je suis arrivé là, je me disais, bah, écoutez, c'est les idées de l'Amérique, évidemment, qui viennent en Europe. Et ça m'a pris un certain nombre d'années pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se développaient en Europe, mais qui arrivaient chez nous.
Ouais.
Et en Europe en particulier, en France, on a vu tout le débat, notamment sur la question sur l'immigration, toutes les difficultés d'intégration de la nouvelle immigration qui arrivait en France, arabo-musulmane principalement. On a vu la constitution de ghettos, on a vu de l'infiltration des écoles, des choses comme ça. C'est toutes des choses que pendant, moi, 20 ans, j'ai couvert en France et tout à coup, j'ai vu ça arriver au Québec. J'ai vu arriver les mêmes, vous savez, la même immigration et les mêmes problèmes d'intégration. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, je dirais, d'avoir des correspondants étrangers parce qu'ils voient des choses qui vont nous arriver 5 ans ou 10 ans plus tard. Et je vois aujourd'hui aussi les mêmes débats autour de ces questions-là. Le débat sur la laïcité, par exemple. Bon, la France est le pays qui a inventé la laïcité, mais ça fait 150 ans. On ne parlait plus de la laïcité, moi, quand je suis arrivé ici, mais aujourd'hui, on en parle sans arrêt, on en parle tout le temps, parce qu'il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes à l'école, tout le monde n'a pas la même conception de l'école. Toute la question, par exemple, du port du voile chez les enseignants, c'était pas dans la tradition française, et donc les Français ont réagi à ça. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, 10 ans après, les mêmes débats arrivent au Québec. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ces débats-là avant que les problèmes explosent. Et c'est un peu le rôle d'un journaliste de faire ça.
Ben oui, moi je pense aussi. Mais est-ce que la laïcité en France, puis je connais un peu la réponse, mais pour alimenter, là, la laïcité en France, on a installé des piquets, mais est-ce que ça a vraiment été un rempart? Parce que moi, je sors des chiffres régulièrement ici. C'est un sujet qu'on n'a jamais eu peur d'aborder. Mais évidemment, on a un auditoire, je pense, capable de nuancer, capable de comprendre qu'à travers tout ça, il n'y a pas que du racisme. En fait, moi, il n'y a pas de racisme. Il y a de l'intégration de cultures. Il y a des cultures différentes, des cultures fondées principalement sur des religions qui sont demeurés un peu au Moyen-Âge dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, dans leur façon de traiter la femme, entre autres. Mais rapidement, quand ça sort de l'antenne ici, ben c'est automatiquement raciste. Je vous donne un exemple. J'avais en entrevue Mme Cécile Tremblay, à qui je donne des chiffres que j'ai pris sur le site des gouvernements français, là, sur le site officiel. La data, elle vient du gouvernement, où j'apprends qu'en l'an 2000, il y a eu...
Je vous entends plus.
Vous ne m'entendez plus? Un, deux.
Ça va, c'est revenu.
OK, c'est revenu. Ouais, on a un petit lag, là, on a un petit problème, mais malgré tout, je suis content, on est capable de communiquer. Donc, j'ai Cécile Tremblay en entrevue qui se présente pour le Parti libéral. Je lui donne les chiffres qui viennent du gouvernement français, où on apprend qu'en l'an 2000, il y avait eu 7500 cas de viol et d'agression sexuelle et qu'aujourd'hui, on est à 42 400. C'est pas une augmentation, c'est une explosion. Et elle refusait mes chiffres. Elle dit non, ça n'existe pas, ça. Je dis oui, ça existe. Donc, ma question, est-ce que le Québécois, un, est bien informé de ce qui se passe en France et deux, est-il capable rapidement d'en prendre acte?
Non, je ne pense pas qu'on est très bien informé sur ce qui se passe en France. Mais écoutez, le point de départ on parlait de la difficulté de débattre, mais le point de départ pour débattre, c'est de reconnaître la réalité des faits. Et ça a été très, très long en France avant que on fasse accepter dans le débat que oui, il y avait des problèmes d'intégration, d'immigration, oui, il y avait des fossés culturels qui sont difficiles à combler et que il y a aussi des populations qui veulent pas s'intégrer quelque part aussi. Il y a des cultures qui sont plus difficiles à intégrer et qui ne souhaitent pas clairement s'intégrer, ce qui pose des problèmes. Oui, aussi, il y a des problèmes de sécurité. Toutes les populations, je veux dire, en France, par exemple, on n'a pas de problème de criminalité avec les Suédois qui viennent s'intégrer en France. On n'a pas à peu près pas non plus de problème de sécurité avec les Chinois qui viennent en France. Pourtant, la France, en Europe, a la plus grosse communauté chinoise d'Europe. Par contre, il y a des gros problèmes de criminalité avec les populations arabo-musulmanes. On ne dit pas ça pour être méchant avec elles. On ne dit pas ça parce que par racisme. On dit ça parce que c'est la réalité.
C'est factuel.
Et je dirais qu'à la limite, c'est raciste de nier la réalité.
Oui.
Non, C'est le racisme, justement, c'est les gens qui ne veulent pas en parler, qui veulent pas en parler parce qu'ils ont peur de passer pour racistes, ils ont peur de heurter ces populations-là. Mais on ne heurte pas ces populations-là en parlant de la réalité. Il faut mettre la réalité sur la table si on veut en discuter. Donc, le point de départ, c'est ça. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne veulent juste pas regarder la réalité. Ils commencent par dire que ça n'existe pas, qu'on a inventé ça, que c'est des racistes qui parlent de ça. Mais qu'il y a des racistes, oui, probablement que des racistes utilisent ces arguments-là pour se manifester. Peut-être, mais est-ce que ça nous dispense de parler de la réalité et de reconnaître les faits? Non, je pense pas. Et le point de départ, c'est ça. Et effectivement, au Québec, souvent, on a tendance à dire non, ça n'existe pas, jusqu'au jour où ça nous pète d'en face. Et là, la réalité nous rattrape.
Puis ici, je trouve que des fois, on a de la difficulté à mettre des termes justement exacts sur des enjeux qui arrivent. Entre autres, je vous sors complètement du contexte, mais quand même, je voulais savoir si vous le maintenez, ça. J'ai vu que dernièrement, vous avez fait une entrevue pour les nommer à Cube et que vous dites la vraie extrême droite, c'est l'islamisme. Est-ce que vous maintenez ce propos-là?
Oui, absolument. Absolument. Ben, écoutez, regardez ce que l'islamisme pense des femmes. Les islamistes, c'est ceux qui dans les pays musulmans, jettent les homosexuels en bas des buildings.
Mais oui.
Écoutez, non, c'est la pensée. Les islamistes, c'est la vraie extrême droite. Alors, si on veut vraiment combattre l'extrême droite, c'est à ces gens-là qu'il faut s'attaquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres extrêmes droites, mais en France, en tout cas, elle est résiduelle par rapport à l'islamisme qui progresse et est très présent.
Mais on ne l'entend jamais. C'est ce que vous voulez dire.
Ici on a Queer for Palestine. Tu sais, je veux dire, il faut le faire, là.
C'est assez paradoxal, en effet, que des homosexuels, que des queers, que des personnes trans se mettent derrière non pas derrière la cause palestinienne. On veut bien défendre la cause palestinienne, mais derrière le Hamas, par exemple, il faut aller lire ce que le Hamas pense des homosexuels. Hein,
chic.
On retombe sur terre quand on dit ça. Ouais.
Monsieur Rioux, tantôt vous avez dit avant que les problèmes arrivent au Québec par rapport à votre comparaison parce que vous êtes du côté de Paris. Avant que les problèmes arrivent, là, c'est dans combien de temps dans l'échelle temps? Là,
on est dedans, d'abord.
On est dedans, mais avant que les problèmes explosent. T'sais, je vais le qualifier comme ça. C'est quand ça, si on ne fait rien, ça explose? Dans 6 mois, dans 2 ans ou dans 10 ans?
Alors ça, j'ai pas de boule de cristal, là. Je peux pas vous dire dans combien de temps, mais c'est certain que les mêmes causes produisent les mêmes effets partout. Et c'est vrai qu'en France, ces choses-là sont plus avancées. Il y a eu une immigration de masse, il y a eu la constitution de ghetto, il y a eu un choc culturel, il y a eu un débat sur la laïcité. Mais moi, quand je regarde le Québec depuis 10 ans, j'ai vu les mêmes choses progresser à une échelle évidemment différente, mais les mêmes choses progresser. C'est drôle parce que régulièrement, quand je dis ça, on me répond toujours « Ah non, ici, c'est pas pareil. Nous autres, on est meilleurs. On sait comment faire.
Oui. »
Mais moi, je vois la même chose arriver. Pour pas le nommer, Gérard Bouchard n'arrête pas de répéter qu'il faut pas s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et de ce qui se fait en France. Mais la même chose qu'en France arrive chez nous, la même chose qu'au Royaume-Uni arrive chez nous, la même chose qu'en Allemagne arrive chez nous. On n'est pas hors du monde. On est peut-être que les choses vont arriver plus tard, peut-être que ça va se passer mieux, souhaitons-le, mais la même chose va arriver chez nous. Je ne peux pas vous dire quand, là, mais je pense que
ce qui est étonnant, c'est que
quelque part déjà commencé.
C'est qu'il n'y a pas de calendrier avec une date, c'est que ça s'installe de façon insidieuse, de façon un peu anonyme, et à un moment donné, on réalise, puis souvent, j'ai l'impression qu'il est peut-être
Regardez ce qui s'est passé à l'école Baldwin. Des Baldwin en France, moi, j'en ai couvert et j'en ai parlé de ça il y a 10 ou 15 ans. C'est exactement la même chose. C'est le même type de prise de contrôle de l'école par des mouvements islamistes, par des groupes islamistes. On est rendu au Canada qu'on parle des frères musulmans, par exemple, l'infiltration des frères musulmans. C'est rendu au Canada. Au début, quand on parlait de ça en France, on nous traitait de complotistes. Vous êtes des fous, vous imaginez.
Comme ici.
ouais. que c'est pas vrai. Mais c'est rendu au Canada. Il y a plein de pays aujourd'hui où on interdit les frères musulmans. La question est posée d'ailleurs en France de le faire. Et donc, ces choses-là arrivent. On n'est pas hors du monde au Québec. Là. On est dans le monde.
Monsieur Rioux, ça a été un plaisir. J'en doutais pas. J'avais hâte de vous parler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous discuter ça. J'aurais bien fait durer le plaisir, mais évidemment, les contraintes de la radio fait qu'on doit passer à la pause. Mais merci beaucoup. Et si c'est possible, j'aimerais qu'on se reparle un jour parce que c'est fort intéressant et je pense que c'est un sujet qui va, disons, reprendre de la vigueur dans l'actualité.
On se reprendra.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au plaisir, Christian Rioux. Chroniqueur, ben oui, j'avais oublié pour Québécois. Tu sais, Québécois, on peut critiquer, mais Québécois tient quand même une ligne là-dessus que j'aime bien.
Ben, il y a une ouverture à Montréal.
Oui. C'est vrai.
Oui.
C'est vrai que Québécois, c'est grand. Mais quand même, je tiens à le souligner, aller chercher Christian Rioux, c'était un no-brainer. Si personne tombait sur. Là, je me serais vraiment posé des questions sur nos médias. Là. J'aurais dit, là, il y a vraiment un mot d'ordre. Il y a des gens sur une blacklist. Mais d'aller chercher Christian Rioux pour Québécois, c'était un maudit bon coup. 13-23, on fait une pause. Au retour, Benjamin Tremblay.
Ouellette, en direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.